c'est l'heure de Fournisphère.
Le rendez-vous culturel et associatif.
Avec Pauline.
Et Julien.
Sur la radio du Pays de Vitré. Des associations.
Des artistes locaux.
De l'actualité locale.
Des acteurs du territoire.
Et de la musique. Fourmisphère, des centaines de milliers d'univers. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radiosphère et on est sur une émission spéciale Fourmisphère au Parc des Expositions de Vitré pour le Salon du Réemploi et de la Réparation. Je suis en compagnie de Yvon, bonjour Yvon.
Bonjour.
On est sur le stand Arpentube, il y a jolies couleurs, qu'est-ce qui se passe ici?
Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien disons qu'on peut relooker, transformer, mettre de la couleur et faire comme on a envie, surtout que... Il n'y a pas de limite dans les goûts et les aspects qu'on peut donner. Donc du coup, il y a des stages qui sont proposés pour pouvoir apprendre certaines techniques. Et surtout, on va faire ça avec des peintures naturelles.
Voilà, donc je vois en plus que tous les supports sont utilisés. Il y a donc forcément, il y a des toiles, il y a des supports bois, mais il y a également du verre, des bouteilles et des bocaux. On peut relooker toutes sortes d'objets.
Toutes sortes d'objets et surtout toutes sortes de matériaux, même le plastique. Donc si on veut repeindre ces interrupteurs, on peut. On peut repeindre des bouteilles, on peut repeindre du plastique, même des cadres, on peut repeindre de la dorure, on peut repeindre du bois peint, du vernis, du stratifié, formica, du laiton, et on peut repeindre des abat-jour tissus.
Des abat-jour tissus. Super. Alors, je vois aussi qu'il y a quelques toiles sur le fond de votre stand. Vous êtes également peintre, peut-être ?
Oui, je suis ce qu'on appelle artiste.
Artiste peintre, voilà.
Et du coup, donc je crée et aussi je donne des cours de peinture et des stages aussi avec des techniques pour acquérir certaines bases et surtout apprivoiser la peinture. Parce qu'il y a un truc que je me dis, c'est que, et au fur et à mesure des années, puisque ça fait 12 ans que je fais ça, que tout le monde peut peindre.
Super. Alors je vois que vous avez un petit prospectus sur votre stand. Si on veut vous contacter, vous retrouver pour assister au stage, on peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux habituels. Et vous avez également une adresse mail, donc art.peintube@orange.fr, c'est bien ça?
C'est ça même.
Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi, à
merci.
Bientôt.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc j'ai fait quelques pas et je me retrouve maintenant devant le stand du Repair Café. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bienvenue sur Radiosphère. Alors, je vois qu'ici, il y a de l'électroménager et de l'outillage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un Repair Café?
Alors, donc, bienvenue au stand du Repair Café. Donc, nous, on est une équipe de bénévoles. On accueille les gens avec un café, Repair Café. Et on essaye de réparer leurs objets qui ne fonctionnent plus. Donc, les bénévoles réparateurs s'occupent de démonter, d'essayer de voir la panne. Et on essaye de co-réparer. Donc, le but, c'est d'essayer d'apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leurs objets pour qu'ils soient autonomes chez eux un maximum.
Donc c'est une association qui fonctionne uniquement avec du bénévolat. Combien de personnes sont actifs en tant que réparateur? Comment ça s'organise?
Alors on est 64 bénévoles. Alors on n'est pas une association, on est vraiment un collectif de réparateurs et de gens d'accueil, parce qu'il faut aussi des gens qui accueillent les gens. Et donc on est un collectif et on dépend d'une association qui s'appelle Vitré Tuvalu. Et donc on est 64 bénévoles.
D'accord, donc découverte pour moi. Hein, mais alors on va aller voir comment ça se passe de plus près sur le stand. Donc sur le concept, les personnes peuvent venir avec un objet en panne, se présentent à un réparateur et on essaie d'identifier la panne. Est-ce qu'il vous arrive parfois de faire appel à des Fab Labs peut-être pour faire de la création de pièces? Ou c'est peut-être une idée comme ça qui passe?
Alors c'est une très bonne idée parce qu'il va certainement y avoir un Fab Lab qui va se monter à Vitré. Et donc, on les connaît un petit peu parce qu'ils sont un peu dans le cercle des bénévoles. Donc, c'est sûr qu'on fera des ponts entre nous et qu'on essaiera de construire des pièces qui peuvent manquer pour certains appareils. On n'en est pas là, mais c'est sûr que si ça se fait, on le fera ensemble et il se passera des choses ensemble, c'est sûr.
Ah, donc c'est un peu le fil rouge de la journée, donc la réparation, le réemploi et le partage. On va tout de suite se rapprocher de Didier qui est en pleine réparation. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors tu as dans les mains du coup un réveil.
J'essaye de réparer un petit réveil,
voilà.
Irréparable parce que indémontable.
Indémontable, donc malheureusement il y a des objets qui ne sont pas conçus pour être réparés.
Non, parce qu'en fin de compte ce qui se passe c'est qu'il est en deux parties. Il y a toute la partie électronique qui est là, mais les aiguilles sont serties après. Et si j'ai serti les aiguilles après, je peux pas les ressertir. Donc je pourrais pas le remettre comme il faut en état. Quoi.
Donc voilà, tous les objets sont pas réparables. Tous les objets sont pas réparables.
Pas tous. Non, il y a des objets qu'on peut pas réparer. Mais ici, on peut pas tout réparer parce que le problème c'est qu'il y a des composants qui lâchent. Par exemple, pour des fers à repasser, ça peut être la cuve. Ou en tout ce qui est sèche-cheveux, ça peut être la résistance qui est morte, mais comme on n'a pas de pièces, donc c'est aux gens d'amener des pièces. Nous, on leur dit ce qui est mort, et puis s'ils veulent, ils peuvent commander des pièces si c'est commandable, et puis après, on peut leur remonter après le matériel. Quoi.
Quelles sont vos motivations pour partager votre temps, pour réparer des objets comme ça? Qu'est-ce qui vous pousse
Moi, j'ai travaillé dans la maintenance professionnelle. J'ai travaillé 30 ans dans la maintenance industrielle. Et j'adore réparer les petites choses comme ça. Et puis, comme je suis en retraite aujourd'hui depuis quelques mois, je participe. Ça fait déjà des années que je suis dans le Repère Café ici pour aider les gens qui ont besoin de réparer des choses.
Merci. Une petite question peut-être au propriétaire du réveil. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment avez-vous connu le Repair Café?
Par affiche. Alors moi je suis pas de Vitré, je suis de Martigny-Ferchaux, mais je sais qu'il y a un Repair Café à Rottier qui vient des fois sur Martigny. Et j'ai jamais pris le temps, on va dire, de me déplacer. Et puis je savais qu'il y avait ce salon-là et qu'il y avait le Repair Café, donc j'avais préparé deux objets. Et malheureusement, il y en a un qui n'est pas réparable, l'autre, il faut que je fournisse une pièce, mais au moins, je sais laquelle ramener la prochaine fois.
Est-ce que auparavant vous aviez d'autres filières pour réutiliser vos objets? Comment vous procédiez? Ou alors, est-ce que c'est des objets qui, il y a quelques années, seraient partis en déchetterie?
Alors, je pense que je suis assez vigilant par rapport à ce que j'achète à la base. C'est les objets qui ne fonctionnaient plus effectivement et qui n'étaient pas réparables, c'était déchetterie, mais aux endroits qu'il fallait. Et puis sinon, c'est Emmaüs aussi, enfin pas pour les objets cassés, mais pour des objets que je n'utilise plus, quoi. Objets ou vêtements ou jouets, enfin voilà.
Merci.
Je vous en prie.
Donc voilà, donc on était avec le Repair Café du secteur de Vitré. Vous pouvez les retrouver prochainement le 21 mai à la Chapelle Herbrée, le 25 juin à Châteaubourg, le 2 juillet à Vitré. Et si vous voulez les contacter, ils sont présents sur les réseaux et sur leur site internet repaircafé-vitré.fr. Merci.
Allez, bonne journée.
Alors, on se retrouve à l'extérieur, sous le soleil, accompagné des compagnons bâtisseurs. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, ici, on voit de la terre, de la paille et des photos de chantier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. Alors, donc, les compagnons bâtisseurs sont une association, c'est même un mouvement qui est présent un peu partout au niveau national et en métropole et en outre-mer. Pour ce qui nous concerne, on est attaché à l'association des compagnons bâtisseurs Bretagne, présente dans les 4 départements bretons. Donc ici, dans le 35, on intervient sur tout le département et on est présent aujourd'hui parce qu'on a eu des contacts avec les élus et notamment Vitré Communauté qui a trouvé du sens à notre action et qui a eu le sentiment que ça pouvait répondre à des besoins des habitants du territoire. Donc notre action, c'est l'amélioration de l'habitat. pour les propriétaires ou les locataires, pour toute raison qui fait que son habitat ne convient pas, soit parce qu'on vit dans des formes d'indécence, de mal logement, soit simplement parce que on s'y retrouve pas dans son logement et que une modification va permettre à chacun de s'y retrouver mieux et donc d'être mieux. Quand on est mieux dans son logement, on est mieux dans sa vie. Voilà, donc ça c'est notre travail. Très concrètement, les habitants peuvent nous contacter. Parfois ils passent par leur travailleur social, mais ils peuvent nous contacter, nous expliquer leurs besoins. Et à partir de là, on accompagne sur le plan social, technique, financier, de façon à voir comment les travaux peuvent être menés, soit en équipe chantier compagnon bâtisseur, donc en logique d'entraide, avec la participation des habitants. Donc ça passe vraiment par plein de choses. On peut accompagner techniquement quelqu'un qui est pas sûr de lui mais qui a envie de faire par lui-même. On peut accompagner quelqu'un qui sait comment faire mais qui n'a pas le matériel. On prête du matériel dans ces cas-là. Et puis on peut mener les travaux en équipe si la personne n'a ni le savoir-faire ni le matériel, mais a un besoin qui se matérialise vraiment dans le logement. Voilà. Donc une fois que toutes les questions financières et techniques sont réglées, le chantier peut être mené. Nos équipes sont constituées de professionnels du bâtiment qui vont être le garant et l'accompagnateur pour chacun de façon à sécuriser le chantier sous tous ses aspects. On a des volontaires, services civiques et des volontaires internationaux qui viennent aussi dans l'association pour découvrir, apprendre et se projeter un avenir pour eux-mêmes. Et puis on a des bénévoles qui viennent également donner le coup de main pour permettre au chantier de se passer dans la joie et la bonne humeur et puis de permettre de faire aboutir les travaux sollicités.
Donc c'est principalement des travaux en ce qu'on peut utiliser le terme d'éco-construction.
On va répondre vraiment. Alors par exemple là on a quelques photos d'un chantier sur de la sécurisation électrique. Donc là on va pas être sur de l'éco-construction. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, pour lequel on travaille aussi avec des partenaires de l'éco-construction. C'est quelque chose auquel on est attaché et la paille, la terre, enfin le foin et la terre qu'on aperçoit, c'est aussi une sensibilisation sur la question du réemploi. La terre, c'est voilà, on a les deux pieds dessus. C'est un matériau de construction qui peut être utilisé et sur le bassin rennais, on a pas mal de constructions anciennes en terre qui s'agit souvent de rénover et il y a plein de solutions qui sont possibles autour de ça avec la fibre écologique et économique qui nous va bien.
Super, alors on va se rapprocher un peu plus près de l'action. Je vois qu'il y a quelques bénévoles et Franck, il me semble, qui sont en train de manipuler de la terre et du foin. J'espère qu'on va en savoir un peu plus. Bonjour Franck.
Bonjour.
Radiosphère, la radio associative du Pays de Vitré, on vient voir un peu ce qui se passe. Alors peux-tu nous expliquer ce que tu fais ici ?
Eh bien là, c'est une préparation de... une préparation de terre et de foin pour réaliser un torchis en fait sur un apparat de bois que j'ai fait en palette et voilà, donc réemploi de terre, réemploi de foin qui peut être un déchet aussi pour les agriculteurs et réemploi de palette parce que bah voilà, c'est du bois des fois qui est incinéré et donc réemployé par nous-mêmes.
Donc c'est des méthodes qui peuvent être utilisées sur les chantiers des compagnons bâtisseurs.
Ouais. Alors oui, après nous, on n'a pas ce domaine d'activité chez nous. Moi, c'est quelque chose qui me passionne à titre personnel. Mais on essaye de développer un petit peu un réseau qu'il y a autour de Rennes, un réseau terreux. Et moi qui travaille beaucoup sur les propriétaires occupants dans le rural, j'ai beaucoup affaire à des maisons en terre. Et souvent, il y a des enduits à refaire ou des murs à reprendre en bauge, qui est une technique aussi de terre crue. Et du coup, on fait appel à un réseau qu'on a au sein des compagnons, chez les terreux du bassin rennais, pour les faire travailler sur des chantiers participatifs et faire participer l'habitant. Parce que souvent, ils ont envie de mettre la main à la pâte, si je puis dire. Voilà.
Voilà, donc comme beaucoup de structures présentes aujourd'hui sur le salon, c'est de la mise en réseau, du partage, de la formation. Dernière petite information, si on veut vous contacter, par quel biais on peut passer ?
Alors, du coup, on a plusieurs numéros. Il y a le numéro de téléphone du siège à Rennes. Sur le petit flyer...
on peut se déplacer, on peut
se
déplacer.
Adapté pour Vitry Communauté, puisque les élus nous soutiennent sur cet aspect-là et souhaitent pouvoir apporter des réponses aux habitants. Donc, il y a un numéro de portable qui permet d'avoir directement le bon interlocuteur. Donc, c'est le 06 80 88 05 52. Voilà, très simplement, on appelle, on explique sa situation et puis les compagnons regardent un petit peu tout ça pour voir de quelle manière on peut apporter des réponses ou des débuts de réponses en tout cas aux habitants.
Alors je vois le bricobus sur le flyer et en vrai juste devant nous. On peut expliquer le concept du bricobus, c'est la matérialisation de l'activité de l'association ou c'est encore un projet un peu différent?
Oui, alors le bricobus c'est à la fois un véhicule qui nous permet d'être mobile et de venir avec tout le matériel nécessaire pour mener les chantiers. C'est aussi une modalité d'intervention, on l'appelle comme ça, en partenariat avec les acteurs locaux qui vont nous permettre de préfinancer un certain nombre de travaux pour que les plus modestes puissent avoir des réponses plus adaptées et plus réactives à leurs besoins autour de l'habitat.
Super. Eh ben, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. À bientôt.
Merci beaucoup à vous. Bonne continuation.
Voilà notre petite visite du salon de réemploi et de la réparation continue. On s'est arrêté sur un stand rempli de belles choses, ça s'appelle Récupart. On va vous en dire un peu plus. C'est pas très radiophonique, faut vraiment le voir pour être séduit parce que c'est magnifique. Il y a des sculptures de fleurs, d'animaux. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Alors, peux-tu nous expliquer un peu comment tu procèdes, pourquoi récup et art? Pourquoi ces deux termes-là ensemble?
Je pense que ça s'associe très bien. Donc, on est un petit peu dans le thème aujourd'hui. Voilà, récup, on fait de l'art au final avec, donc récup art, je trouve que ça sonnait pas trop mal.
Donc d'où provient ta matière première?
Entreprise et particulier. Vraiment de la recherche... un peu de porte-à-porte, et puis après le bouche-à-oreille qui fait que les gens nous déposent un peu. Quoi.
Super, donc ça permet du coup de limiter le nombre de déchets ferreux.
Exactement.
Comment on peut retrouver tes œuvres? Est-ce que tu as peut-être un site internet?
J'ai un site Facebook du coup qui s'appelle Tout à refaire, qui est noté...
Voilà, donc tout
plus simple au niveau des
art et faire.
Voilà.
On là, c'est pareil sur la page.
C'est un peu le mélange, hein, tout à refaire, tout est à refaire, comme tout va bien, quoi.
Comment t'es venu cette idée, cette motivation? Tu travaillais peut-être déjà le métal dans ta vie professionnelle?
Il y a 20 ans que je suis soudeur, ouais.
Super. Donc c'est une reconversion.
Un plaisir, plus qu'autre chose. Puis on a vu qu'au début ça faisait plaisir à la famille, donc après ça commence à faire plaisir toujours au monde autour, donc voilà, là on commence à s'agrandir un petit peu, donc c'est parfait.
Petite question, est-ce qu'il y a une des œuvres présentes sur ton stand où tu pourrais estimer à peu près le nombre d'heures de travail? Parce que j'imagine que c'est pas négligeable. Tout
mon Héron, là on est sur à peu près, on dira 160 heures.
Donc pour vous donner une idée, le Héron fait environ, je dirais 1m60 de haut. C'est pas très joli. Est-ce que le client peut peut-être a la possibilité de choisir des finitions différentes, peut-être demander des peintures, des couleurs?
Ah oui, complètement. Voilà. Là, ce que
les
œuvres que j'ai ici, bon bah c'est mon petit plaisir perso, mais après si on les demande, on s'adapte.
Voilà, tu fais des créations à la demande aussi, du coup, on te demande un cheval que tu n'en as pas.
Un éléphanto en ce moment, tu vois, donc. Bon, là, on manquait un petit peu de place pour pouvoir exposer, mais s'il faut un cheval, on fera un cheval. On est ouvert à toute proposition.
Voilà, donc n'hésitez pas à retrouver les œuvres de Jordan sur la page Facebook Tout à refaire. On repartagera ça sur la page de la radio. Et on se retrouve dans quelques instants, juste le temps de changer de stand. Merci, au revoir.
Au revoir.
Donc voilà, on a traversé les allées, on est maintenant sur le stand de Proxcycle.
Proxcycle.
Du mal à la prononciation, excuse-moi. Bonjour Eric. Alors, comme vous l'avez sûrement deviné, il y a des cycles, donc des vélos, probablement de la réparation du coup. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Alors moi, je propose un service de réparation en itinérance. Donc je me suis rendu compte que dans nos coins, des fois en campagne, on était souvent loin d'un magasin de vélos. Que les gens n'avaient pas forcément toujours le véhicule adapté pour transporter le vélo dans un lieu donné. Donc je propose aujourd'hui un service de réparation en itinérance, directement chez le client, avec un service clé en main qui évite aux gens de se déplacer et d'avoir le confort d'un service à domicile.
Sur quel secteur du coup ton
activité ? Alors moi je suis basé à Saint-Aubin-du-Cormier et je me déplace dans un rayon de 30 km autour de Saint-Aubin-du-Cormier, ce qui me permet déjà de toucher de bonnes agglomérations telles que Vitré, Fougères et de l'autre côté Rennes.
Et comment les clients viennent à toi du coup ? Ils te contactent par téléphone, par mail ?
Alors il y a un peu de tout. Au niveau de la communication, le bouche à oreille a très bien aussi fonctionné, donc par ce biais-là. Et puis contact effectivement par téléphone. J'ai mon site internet, donc un site internet vitrine pour montrer un petit peu ce que je fais, expliquer. Donc via le site internet, via le téléphone, ma page Facebook et puis des petits leviers de com typiquement qui ont été les journaux par exemple. La Chronique, Ouest France, etc. Donc beaucoup de contacts un petit peu par tous les biais en fait. Voilà. C'est assez varié.
T'as pas eu de difficulté au début pour trouver de la clientèle comme ça en porte-à-porte parce que c'est quand même pas une activité très habituelle
Effectivement, il a fallu faire un petit peu connaître l'activité, mais je suis tombé au bon moment où il y a eu la prime des 50 euros pour la rénovation des vélos. Donc les gens étaient déjà un petit peu plus concernés par ça, commençaient à connaître un petit peu aussi l'intérêt du vélo là-dessus. Et donc moi j'ai levé des leviers de communication au fur et à mesure et le bouche à oreille, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui a marché le mieux au départ. Vraiment, c'est voilà.
Alors donc du coup, donc réparation de vélo, quel que soit le type de vélo, quelle que soit la panne, tu peux répondre à peu près à tout.
Exactement, voilà, tout type de vélo, les vélos enfants, adultes, vélos de course, VTT, vélos de ville, vélos électriques. Également, puisque bon, forcément, c'est également en plein essor. Donc, je n'interviens simplement pas sur la partie électrique, moteur, batterie. On est sur quelque chose de quand même assez spécifique, mais moi, j'interviens sur toute la partie cycle des vélos. Donc, effectivement, vraiment tout type de vélo, je ne me ferme à rien. Le but étant de trouver une solution pour le client, l'utilisateur. Tout type de vélo, ouais, sans problème.
Petite dernière question, curiosité personnelle, c'est quoi la panne la plus fréquente que tu rencontres ?
J'aurais pas nécessairement de panne plus fréquente, mais je dirais les problèmes de dérailleur. Souvent les problèmes de vitesse, des vitesses qui passent mal, qui sautent et qui gênent considérablement à l'utilisation d'un vélo. Donc le plus souvent ça va être ça, et notamment aussi les freins. Pareil pour la sécurité. Donc freins et vitesses, sont les réparations les plus courantes.
Donc voilà, ne jetez plus votre vélo, réparez-le et à votre domicile. Peut-être tu peux nous donner l'adresse de ton site internet.
Oui, alors donc www.prox, comme proximité, cycle.fr. Donc proxcycle.fr.
Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Eric et il viendra à votre domicile si vous êtes dans le secteur réparer votre vélo. Merci Eric.
Merci et à bientôt.
À bientôt. Alors, on se retrouve maintenant devant un nouveau stand où il y a des choses un peu diverses et variées dans la fabrication. On est sur le stand de l'outil en main. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
Alors, pouvez-vous nous présenter un peu l'activité de cette structure ?
Donc, l'association l'outil en main donc, existe depuis 25 ans à Vitré. Alors, il faut savoir que c'est une association nationale. Il en existe 220 ou 230, je ne dis pas trop de conneries. 220-230 en France aujourd'hui, donc ça augmente. Et donc le but de l'association, donc c'est de faire découvrir des métiers manuels à des enfants qui ont entre 9 ans et 14 ans, à raison de donc pendant une année, donc on a 10 ateliers et pendant la saison, les enfants passent dans tous les ateliers. C'est-à-dire qu'ils découvrent 10 ateliers à Vitré, puisqu'on a 10 ateliers. De la menuiserie au vitrail.
Il y a la céramique, la pyrogravure,
l'électricité, la plomberie, etc., etc. Enfin, bon, je ne vais pas tous les citer. Voilà. Donc, on reçoit une quarantaine d'enfants c'est-à-dire 3 enfants par atelier et accompagnés de 45 bénévoles. C'est-à-dire 3 enfants par atelier et 3 voire 4 bénévoles par atelier.
Ouais, voilà. ça représente aussi un échange un peu intergénérationnel,
voilà.
Une transmission de savoir. Je vois que sur vos supports, c'est échanger et transmettre qui sont vraiment mis en avant.
Mmh.
Quelles sont les motivations qui vous poussent à transmettre ce savoir à nos jeunes d'aujourd'hui ?
Les motivations, essayer de faire perdurer ces métiers, parce qu'ils sont en voie de disparition, certains surtout. Donc essayer de remettre au goût du jour tous ces métiers qui ont tendance à disparaître, quoi. Et puis faire découvrir aussi aux enfants qui ne connaissent pas forcément ces métiers, enfin je dirais même pratiquement pas. Et donc ça leur permet aussi peut-être de créer peut-être un déclic pour peut-être dans le choix de leur vie professionnelle, peut-être. Je pense qu'on... Il y a 5-6 ans, on a fait un petit sondage pour savoir combien d'enfants qui sont passés à l'outil en main, enfin, les premiers enfants qui sont passés à l'outil en main, et 15 ans après, que sont devenus ces enfants. Donc on a interrogé les parents, et je crois que c'est dans les 40% des enfants ont choisi un métier manuel. Donc après, ça ne dépend pas que de nous, certainement, mais je pense qu'on y contribue pas mal. Voilà. Donc c'est une des motivations, et puis l'intergénérationnel bien sûr aussi, parce que les échanges avec nos générations de retraités avec les enfants sont aussi très intéressantes.
Ouais, je vois que vous recherchez également des bénévoles.
Alors oui.
Comment les personnes intéressées peuvent vous contacter? Vous avez donc il y a une page sur les réseaux sociaux, outils en main à Vitré. Quels sont les principaux besoins en termes de bénévoles? Est-ce que c'est vraiment uniquement pour ces ateliers, ou est-ce qu'il y a aussi besoin sur l'organisation, sur la vie associative en dehors?
Alors c'est toujours difficile de trouver les personnes qui ont les compétences par atelier. On a aussi beaucoup de bénévoles qui ne sont pas forcément du métier, mais qui apprennent un petit peu aussi sur le tas, comme on dit. Et puis, finalement, après, parce qu'on n'a pas la prétention d'apprendre un métier aux enfants non plus, c'est surtout de les faire découvrir les bases des métiers. Et puis voilà, quoi, c'est surtout. Quoi.
Merci Joseph de cette intervention. Donc, n'hésitez pas à contacter l'outil en main de Vitré si vous voulez vous aussi partager votre savoir-faire.
Par contre, alors oui, c'est sur les bénévoles, quoi. Donc au niveau des bénévoles, effectivement, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Les enfants, on en a toujours de trop, mais les bénévoles, on est toujours en train de courir après. Par contre, on communique dans la presse ou autre, les réseaux sociaux, et là on a très peu de retours. Par contre, une journée comme aujourd'hui, on voit des gens qui passent, on leur demande s'ils pourraient être intéressés, et là... très souvent, ils sont d'accord, et ils vont, parce qu'on a discuté avec eux, en fait. On leur a expliqué un petit peu l'ambiance de l'outil en main aussi, parce que c'est pas une école, c'est aussi une ambiance entre nous. Donc c'est un petit peu comme ça aussi que les gens, c'est plus en communiquant directement avec eux qu'on arrive à les faire venir.
Rien ne vaut le contact humain direct.
Voilà, exactement.
Exactement.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin d'après-midi.
Merci.
Au revoir. Voilà, on poursuit notre déambulation au salon du réemploi et de la réparation au parc des expositions de Vitré. Je suis en compagnie de Fabienne et Fred sur le stand de l'AIS35. Bonjour.
Bonjour.
Alors, AIS35, donc Association pour l'insertion sociale, pouvez-vous nous expliquer un peu quelle est l'activité de cette structure?
Alors globalement, l'association AIS35 intervient sur tout le département d'Ille-et-Vilaine avec différents pôles. Donc un pôle socio-judiciaire, un pôle hébergement, un pôle santé et un pôle IAE. IAE, ça veut dire insertion par l'activité économique. Et dans ce pôle IAE, on a deux propositions d'activités pour les personnes en insertion que nous accompagnons. Des ateliers d'adaptation à la vie active, AVA, on appelle ça AVA, et chantier d'insertion, donc le chantier d'insertion AIPR, qui a des branches sur Rennes et maintenant sur Vitré. Donc c'est dans le cadre de ce pôle IAE que les activités sont présentées aujourd'hui ici au salon du réemploi. Et on fabrique du mobilier en palette qui va permettre d'avancer sur septembre avec la création de postes en contrat d'insertion pour des personnes qui démarreront en septembre. Et on fera aussi une activité couture pour fabriquer des coussins pour ce mobilier en palette. Et on a également des AVA, donc là ce sont des personnes très éloignées de l'emploi qui ne sont pas en contrat de travail et qui vont plutôt être sur du détournement d'objets à partir de récupération de matériaux, fabriquer des objets détournés pour la décoration par exemple.
Alors quelle est la finalité de ces objets? Est-ce qu'on peut les acheter? Comment
Alors pour l'instant, en fait, ce sont des objets qui ont été fabriqués pour des événements comme celui-ci, pour montrer ce qui est prévu par la suite en septembre. Et sur le site du chalet à Vitré, où est implanté le CHRS, il y aura après un magasin qui permettra d'exposer et de vendre les objets fabriqués par ce public.
Super, donc sur le stand, on peut apercevoir qu'il y a du mobilier un peu de tout genre, donc il y a des super beaux fauteuils, des étagères. Combien de temps pour un fauteuil à peu près? Combien de temps de travail pour cette fabrication?
Alors là, pour tout ce qui est fabrication, je vais passer la parole à mon collègue Frédéric, qui est la personne qui encadre le public en insertion pour la fabrication. Il va pouvoir vous donner plus d'éléments sur le temps qu'il faut pour fabriquer un fauteuil ou une chaise.
D'accord.
Bonjour.
Fred. Oui, alors, c'est quoi la question?
Alors, je demandais tout de suite, combien de temps il faut passer pour en arriver à cette finalité?
Alors, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, on va partir dans la globalité d'une palette qu'on va trouver à l'extérieur. Cette palette, il va falloir la démonter, la déclouer, la travailler, la calibrer, et ensuite repartir dans un élément de montage. Donc, soit la passer sur des machines comme des Gorabo, par exemple, pour obtenir un résultat plus clair, plus propre et plus calibré avec une scie à format. Donc là, on part sur des outils de menuiserie qui sont plus professionnels. Nous, on a travaillé sur de la palette brute, sur ces fauteuils de jardin. Là, on est sur un travail qui va demander, au niveau de la préparation de la palette, on est peut-être sur 5 heures de boulot facile, plus. Un peu plus, ouais. Je mettrais 6 heures.
Est-ce que c'est accessible à tout public, du coup? Est-ce que chez soi, si on a des palettes, est-ce que c'est facile ou ça demande quand même un minimum de connaissances?
C'est assez... Ça dépend. On va dire que ça peut être compliqué pour certains et facile pour d'autres. Maintenant, on prend des tutos sur Internet et on arrive rapidement à utiliser une palette pour faire un ouvrage, quoi. Il suffit de suivre... La démarche et de la recopier.
Super. Voilà.
Après, là, oui, effectivement, on a aussi un assemblage qui doit être réfléchi. Forcément, une personne qui va expérimenter ça tout seul de son côté va peut-être se trouver sur des déséquilibres à un moment. Là, on a essayé d'équilibrer les choses, notamment avec une personne qui a déjà travaillé en menuiserie. Voilà.
Qu'est-ce qui vous motive, vous, à partager de votre temps, du coup, pour cette activité?
Ce qui me motive à partager du temps dans cette activité, c'est mon boulot, quoi. Donc c'est pas un partage, c'est plutôt nous voilà exactement, ouais, c'est de l'accompagnement professionnel.
Voilà, merci beaucoup.
De rien.
Donc l'AIS35, l'association pour l'insertion sociale. Si on veut retrouver des informations concernant cette structure, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.ais35.fr. L'AIS a également plein d'autres missions, plein d'autres activités. J'espère qu'on aura l'occasion de les retrouver sur Radiosphère. Si on peut en citer quelques-unes, il y a des maisons relais, des logements adaptés, de l'aide aux victimes. Je vous invite à venir dans les studios de la radio pour venir échanger sur l'activité totale de cette structure. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci.
Nous voilà arrivés sur un autre stand où on retrouve plein d'objets pas très communs. On est sur le stand Le Bazar de Fredo, bonjour.
Bonjour.
Alors, peux-tu nous expliquer ton activité? Tu es transformateur et créateur d'objets de décoration.
et de luminaires.
Et de luminaires.
C'est ça. Mon idée, c'est de récupérer des objets qui ont un vécu, qui ont une vie, et d'en faire souvent des lampes. Mais ça peut être aussi des petites sculptures, des petites installations. Dans l'idée de faire de la décoration intérieure, en fait. Donc, je fais aussi de la peinture à base de collages d'encyclopédies récupérées à droite à gauche. Mais principalement des luminaires.
Je vais essayer de vous décrire deux, trois objets pour que vous ayez une idée, parce qu'à la radio, on n'a pas l'image, mais par exemple, on peut retrouver une lampe fabriquée à base d'un rabot de menuisier.
C'est ça.
Voire même à partir d'un VHS, d'un vieux...
Une vieille caméra 8 mm.
8 mm, ah, c'est un 8 mm, c'est encore plus vieux. Donc si chez moi, j'ai un objet que je souhaite transformer en luminaire, on peut se rapprocher de toi.
On peut me contacter.
Voilà.
On voit ensemble si c'est possible, parce qu'il y a des objets, ça va être très compliqué et du coup, ça va demander une technicité importante. Et il y a des choses qui sont très simples. Donc on voit ça ensemble. Et puis soit je vous le fais, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de manuel, soit on fait ça ensemble. Et puis comme ça, vous aurez la fierté d'avoir fait vous-même l'objet.
Comment en es-tu arrivé à créer cette activité? C'était quelque chose que tu faisais déjà beaucoup pour toi-même et qui s'est développé ensuite?
Alors, j'ai toujours été un créatif. En fait, je viens d'une filière artistique. J'ai pas percé dans ce domaine-là, mais j'ai toujours eu besoin de faire des choses. Donc, d'un métier de développeur web informatique où je me suis ennuyé, je suis devenu menuisier. Donc là déjà faire de travailler des choses avec ses mains. Et puis le fil en aiguille, je trouvais qu'il y avait des objets qui sont beaux naturellement, que je trouve dommage qu'on n'utilise plus, qu'on met du coup en déchet. Et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et la lampe, c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement chez soi, qui a une utilité, du coup ça nous éclaire. Et voilà, quoi, c'était d'allier les deux choses. C'est venu comme ça en fait, de fil en aiguille.
Alors du coup, ça fait des objets qui sont très uniques, voire même très personnalisés.
C'est
très
ça, c'est de la pièce unique en fait. C'est quasiment que de la pièce unique.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes créations?
Alors, on peut taper le bazar de Fredo sur Internet, donc Fredo avec 2D. Et on va trouver sur ma boutique en ligne, en fait, elle est hébergée par Le Grand Marché, qui est un regroupement de créateurs et de merceries et d'autres choses. Et vous tapez le bazar de Fredo dans la recherche du Grand Marché là, et vous allez me trouver. Voilà
super. Donc n'hésitez pas à contacter Fredo via ce site internet si vous voulez faire transformer votre objet en luminaire, ou si vous voulez même vous acheter une lampe complètement originale, complètement unique.
Là, c'est des lampes qui ont du vécu.
Voilà, donc il y a aussi des boîtes, donc des vieilles conserveries transformées en lampes, des cafetières. C'est très, très original sur les idées, des pistolets de peinture. C'est un très joli stand en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci, bonne fin d'après-midi.
Également.
Donc voilà, on s'est encore déplacé sur le stand suivant, le stand d'Oppo, où on retrouve un atelier de fabrication de bivrap. On va écouter la petite explication.
On appelle ça wrap ciré ou bivrap. Bivrap, c'est en anglais, ça veut dire abeille, le wrap des abeilles, parce que c'est fait avec de la cire d'abeille. Voilà, donc soit on le met comme ça et on vient à bien appuyer, tu vois, et c'est la cire d'abeille qui vient se coller l'un à l'autre, et donc tout le tissu est bien collé tout autour de ton bol. Soit tu viens mettre ton sandwich. Ton petit sandwich pour le 4 heures. Hop. Tu replies, tu plies sur les côtés. C'est le même principe. C'est la chaleur de tes doigts qui va faire fondre la cire d'abeille, qui vient coller le tissu comme ça. Et voilà, tu peux partir avec ton sandwich.
Toi, tu peux le faire.
Et après, tu peux aussi mettre, par exemple, des noisettes. Imagine, tu vas faire une rando avec maman. Pas tout de suite. Tu vas faire une rando maintenant. Non, on sait jamais, cet été peut-être, pendant les vacances, ou tu vas à la plage, plus cool encore. Tu mets des noisettes, des amandes, des choses comme ça, hop, tu refermes, tu fais comme une aumônière, tu viens serrer comme ça, avec ton poing, et hop, ça a tout fermé, il y a tes petites amandes, elles sont rangées dedans. Alors, du coup, Vous voulez tous en faire?
Ouais. Cool. Donc voilà, si vous avez suivi un peu l'explication, donc le beef wrap permet de remplacer le film alimentaire. C'est quelque chose qu'on peut fabriquer chez soi à partir de tissus et de cire d'abeille. Alors on va essayer de suivre un peu la fabrication. Je vais essayer de me glisser dans l'atelier et voir un peu comment ça se passe.
Le principe, c'est quand même de le laver avant, c'est mieux vu que ça va toucher de l'alimentaire, et d'être sûr que c'est du coton. Quand on n'est pas trop sûr, le tissu qu'on vérifie, ça se brûle. On brûle un petit coin. Le tissu végétal, donc coton, ça va réagir comme le papier, ça va sentir plutôt le papier brûlé, et ça va faire des petites ondes comme le papier. Si jamais ça sent un peu le cochon grillé, c'est qu'il y a de l'animal dedans, donc soie ou laine. Et si ça sent un peu le plastique et que ça se rétracte fort, c'est qu'il y a du synthétique dedans, donc c'est à éviter aussi. Plutôt matière naturelle, coton, à la limite du lin et coton. Voilà. Donc là, tu vas tracer tout autour, hop. Autour de gabarit,
allez, comme à la couture.
On utilise un petit gabarit, on trace son petit carré.
Et après, on va découper. Donc si vous voulez en faire, c'est pareil, vous prenez...
C'est réalisable à tout âge, hein. C'est des enfants qui le font devant nous.
Il y a notre gabarit.
Non, bah, va te le passer, je pense. Regarde, hop, c'est déjà fait.
Tu vois?
Voilà, trouve un petit coin qui a déjà été coupé. C'est ça, la moche d'été, 20 sur 20. Mais celui-là, il fait 25 par 25. Ceux-là, ils font 35 par 35.
Le tout, adapté c'est que au plat, quoi.
Voilà, ça adapté au plat ou à ce qu'on veut mettre dedans. Sur des baguettes, là, ils font vraiment, s'il te plaît. Alors, mon conseil, c'est qu'aujourd'hui, là, pour l'atelier, on va le faire avec un fer à repasser. Et je ne vous conseille pas de faire avec un fer à repasser à la maison. Parce que le fer à repasser, il peut prendre un peu de cire. Ou la table à repasser, elle va prendre un peu de cire. Et alors là, c'est foutu, quoi. On n'aura plus... bien. Donc je vous conseille de le faire au four à la maison. Vous prenez, ça va être la même technique, hein. Vous prenez du papier sulfurisé, du papier cuisson, vous mettez sur la plaque du four ou sur la grille du four, vous posez votre tissu, pour le coup il faut qu'il soit repassé avant pour que ce soit bien plat. Vous mettez les petites pépites de cire d'abeille dessus, réparties comme ce qu'on va faire là, et puis on met dans un four chaud éteint. On met pas le four allumé parce que c'est un peu trop risqué pour votre habitation.
Il va bien combien de degrés ton four?
Et bien le four, que en fait la température, la cire, elle chauffe à partir de 80-90 degrés. Donc en dessous, c'est sûr que ça va pas fondre. Mais bon, votre four, en général, c'est un peu le minimum de toute façon. Et après, bah, par exemple, s'il était à 200 degrés, ça va juste fondre plus vite. Et c'est tout, en fait. Vous regardez pour que la cire soit bien fondue partout et vous le sortez tout de suite. Vous ne laissez pas cuire la cire sur le coton. Il faut juste que ça fonde. Voilà.
Et après, pour le laver?
Pour le laver, on lave avec une éponge à l'eau froide, du produit vaisselle ou du savon. Pas d'eau chaude, parce que du coup, vous allez enlever la cire et pousser la cire à certains endroits. Ça sera plus hermétique de manière homogène. Donc on ne met pas d'eau chaude, pas de machine à laver ou quoi que ce soit, pas de source de chaleur. Voilà. Donc c'est pareil, pas dans le micro-ondes, pas derrière une fenêtre en plein soleil. Sinon bah, la cire elle va couler plus d'un côté que de l'autre et ça sera plus un métier de la même façon. Voilà.
Et c'est antibactérien en plus la cire.
Ouais, alors on peut tout mettre dessus sauf le poisson cru et la viande crue. Parce qu'il y a des pathogènes qui peuvent rester et qui sont voilà, des bactéries qui ne vont pas être bonnes pour la santé humaine. Après, tout le reste, c'est OK.
Top.
Voilà.
Oui, ben c'est bon. Ah, hop là.
Alors, ça y est, t'as coupé? Alors, viens, on va aller par là. On va laisser les gens couper sur le côté table.
On va faire l'étape du découpage est passée. Maintenant, reste l'étape... on va enduire le tissu de la cire d'abeille. Hop, on change de côté.
Bon, on va venir mettre le petit tissu sur le papier.
passé.
Tu fais de la couture? Trop cool. Alors, maintenant qu'on a mis notre tissu sur le papier cuisson, on va venir répartir des petites pépites de cire d'abeille dessus. Donc vous prenez avec vos mains et puis hop, vous répartissez. Il faut qu'il y en ait un peu dans tous les coins, tous les côtés, et que sur le tissu.
Où est-ce qu'on peut se procurer de la cire d'abeille?
Ah, bonne question.
Sous forme de pépites comme ça.
Eh bien, dans tous les magasins bio, magasins de vrac, ici ça va être Mamie Mesure, Biocoop, Nature Source. Je pense qu'on peut trouver aussi ça en supermarché, rayon droguerie. Là où on a en sachet craft, ça va être bon maintenant comme ça, ça va être bon. Là où on a en sachet craft aussi les cristaux de soude, bicarbonate de soude, etc.
Pour faire ses lessives maison.
Ouais, en droguerie quoi, ouais, 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 c'est ça.
Il y en a assez là ?
Il y en a trop.
Ah, il en faut combien à peu près ?
Alors, j'avais calculé. Il en faut à peu près 10 à 20 grammes selon la taille du tissu qu'on a. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'autant. Parce qu'après, du coup, ça va déborder.
Je
ne sais pas,
il fallait un peu partout. Alors. 20 sur 20, tu mets 10 à 20 grammes pour un peu de passion.
20 sur 20, c'est même moins de 10 grammes. Hein. Non, mais je te dis 10 à 20 grammes pour toutes les tailles.
Soupe, quoi.
Voilà, une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Alors on va éviter d'en mettre trop à l'extérieur parce que du coup ça va brûler, ça va trop l'enterrer. Voilà, on va mettre le papier dessus et tu vas faire un mouvement juste d'appuyer. Voilà, tu le prends et tu viens juste poser comme ça, le temps que la cire elle fonde. Non. J'ai pas vu, j'ai pas posé.
Ah mais c'est normal. Là il y a beaucoup de monde plus la radio, ça me fait impression.
Oh là là, non j'ai pas trop la position. C'est maintenant la troisième fois aujourd'hui que je répète. Tout va.
Donc t'as entendu tout à l'heure comme faut pas tourner, faut juste
ouais,
appuyer.
On va faire juste un geste d'appui. On va pas faire comme si on repassait.
Comme le thermocollant.
C'est ça, exactement.
Moi je pense que j'en ai pour deux là en fait.
Là t'en as pour le deuxième, ouais, tout à fait. Bon, tu vas venir avec le fer, juste le poser et attendre que ça fonde. Voilà.
Mais
ça...
au four, est-ce que tu remets un papier?
Non, pas besoin. Non, au four du coup on met juste le papier cuisson au-dessus du tissu repassé. Là pour le coup il faut qu'il soit repassé, s'il a, il a des bosses, la cire va pas se mettre partout. Ensuite on met la cire. Et on allume la lumière du four pour bien regarder ce qu'on est en train de faire. On met ça dans un four chaud éteint et ça va fondre tout doucement. On va regarder. Dès que tout est fondu, on le sort. S'il manque des endroits sans cire, on en remet, on met au four et c'est tout. On décolle tout de suite dès que ça sort du four. Il n'y a pas trop de risque de se brûler. En fait, la cire fondue, c'est pas non plus. Ça, on prend un petit angle, c'est pas si chaud que ça. Mais il faut l'enlever tout de suite parce que sinon, ça reste collé au papier. Voilà, donc il faut quand même enlever. Voilà, là on en va être bien. Hein. Aussi, on va faire juste des petits angles. Voilà. Et tant que c'est chaud, ce que je disais, hein, tant que c'est chaud, après on décolle tout de suite.
Vas-y, bah attends.
Sinon ça se recolle.
Vas-y. Hop, c'est chaud, décolle.
Ça va être un angle là.
Attends, deux secondes.
Là tu le tires. Et c'est
hop,
tout.
Voilà.
Et c'est tout. Voilà, ça se tape un angle.
J'ai pas peur. Merci.
Et voilà, tu tires. Et c'est tout. Et voilà, c'est fini. Bravo. Alors, attends, regarde. Il reste un tout petit endroit là où il n'y a pas de cire.
C'est juste de la cire. C'est chaud.
Repasser un peu partout.
Je pense que c'est tout le monde, ça va rester.
Charlotte, elle a mis...
Charlotte, elle nous a dit, on va mettre de la cire dorée.
C'est mignon.
Du coup, j'en ai assez.
Ouais, tu t'es réparti tout partout.
Alors, est-ce qu'il faut au bout d'un moment recharger en cire au bout d'un certain nombre d'utilisations?
Ouais, ça arrive que. Ouais, bon, après, c'est pas tout de suite. Hein. C'est vers. Ça fait un an qu'on l'utilise, un an et demi qu'on l'utilise, et on voit que ça colle plus bien. On remet au four avec un peu de cire, et puis c'est reparti.
Ouais. Super.
La question en parabole.
Voilà, on termine le parcours de cette journée au salon du réemploi et de la réparation. On est sur le stand de Zero Waste. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour.
Alors, peux-tu nous expliquer un peu quelle est l'activité de Zero Waste ?
Alors, Zero Waste Pays de Rennes est une association qui existe depuis 2017. On fait partie du réseau Zero Waste France. C'est une asso qui a déjà 25 ans. Et donc, nous sommes un groupe local, mais une association complètement indépendante, aussi bien financièrement que stratégiquement. On a nos propres choix de campagne, d'ateliers, d'animation. On n'a que des bénévoles qui sont des actifs, donc pas toujours évident de faire les animations en semaine. La crise est passée par là, on a eu un petit déficit de bénévoles, donc toutes les bonnes volontés sur le territoire sont les bienvenues. Nos missions sont axées sur la sensibilisation à la gestion, à la production des déchets et du coup à faire réfléchir les personnes à au mode de consommation. On a des actions auprès du public, auprès des collectivités, des entreprises, des scolaires. On essaie d'avoir d'aller un peu partout pour essaimer les bonnes pratiques. Donc on sensibilise sur le zéro déchet et le zéro gaspillage, puisque waste, en fait, en anglais, c'est ces deux notions-là. C'est pour ça que le nom est anglais et pas, c'est pas un nom français comme on peut nous reprocher des fois. On a des animations variées, on fait du stand comme aujourd'hui ou atelier, on fait des conférences.
Alors sur le stand en plus aujourd'hui vous proposiez un atelier autour des vêtements, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ?
Alors l'atelier qu'on a proposé aujourd'hui c'est la première fois qu'on le faisait, à partir en fait de vieux t-shirts. L'idée c'était de proposer aux enfants et aux parents, mais bon c'était à destination des enfants principalement, de créer un sac. Donc à partir d'un vieux t-shirt, ça peut être un t-shirt qu'ils ont porté étant plus petits et ayant grandi, ils peuvent plus le mettre, mais ils adorent peut-être le motif. Et du coup, c'est donner une seconde vie à un t-shirt qu'ils pourraient plus porter, tout en évitant l'achat d'un autre sac.
Et de produire un nouveau déchet par la suite.
Et voilà.
Super. Alors vous animez également une conférence sur ce salon qui a lieu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du sujet de cette conférence ?
Oui, la conférence qui a lieu dans 5 minutes à peu près.
Alors, on va faire court.
Elle est à destination du grand public. C'est expliquer ce que c'est justement le Zero Waste, pourquoi les déchets sont un problème et les modes de traitement de ces déchets sont un problème. Et après en fait expliquer les méthodes qui sont prônées pour essayer de réfléchir quand on consomme, avoir une posture de consommateur, donc à chaque fois qu'on se dit tiens j'ai besoin de ça, se poser les questions pour savoir si on en a vraiment besoin, quel mode on va en avoir besoin, est-ce que c'est ponctuel, est-ce qu'on en a besoin tout le temps, et en fonction choisir sa façon de consommer. Et on terminera aussi par des idées qui... en fait, il y a souvent des idées qui font que les personnes ne passent pas le cap du zéro déchet. Et là, en fait, on va essayer d'un petit peu tordre. Tordre un petit peu ces idées préconçues, essayer d'argumenter et puis d'échanger avec le public sur pourquoi il y a certains freins.
Ok, une petite dernière question avant de vous libérer pour la conférence. Vous qui êtes en contact du public, est-ce que vous constatez une évolution plutôt bonne sur les modes de consommation, de production des déchets, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ?
Alors sur les stands, c'est vrai que c'est un public averti en général, donc du coup ils ont des pratiques. Après il y a beaucoup de désinformations qui se font, et c'est vrai qu'à Zero Waste en fait on va beaucoup travailler sur ça prochainement, puisque tout ce qui est marketing, même les messages que passent parfois les élus peuvent être un petit peu contradictoires et laisser penser aux consommateurs que ce qu'ils font est une bonne pratique. Et en fait, il y a un petit peu de greenwashing des fois dans les termes employés, dans la façon d'employer les choses. Donc il y a encore du progrès, il y a encore plein de gens à solliciter, plein de personnes qui ne sont pas dans la démarche, qui ne la connaissent pas. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais ça évolue quand même, ça évolue bien, parce que c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus de monde qui, le zéro déchet, ça parle maintenant à beaucoup de personnes.
Est-ce que vous fonctionnez également avec des bénévoles peut-être au sein de votre structure ou est-ce...
Oui, on a que des bénévoles.
Que des bénévoles.
Du coup, là, ça a beaucoup chuté avec le Covid. Voilà, on est passé de 90 personnes à 20 personnes. Là. Donc, c'est vrai que ça fait un peu mal. C'est un peu compliqué de répondre aux sollicitations qu'on a, d'animer des, voilà, plein de choses, des ciné-débats, des conférences, des stands. On fait du mieux qu'on peut et puis voilà, si des personnes sont motivées, la porte est grande ouverte.
Bah voilà, merci. Donc si on veut vous contacter pour rejoindre votre équipe, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les différents réseaux. Vous avez également peut-être un site internet.
Oui, on a comme notre site internet, c'est Zero Waste Pays de Rennes. Du coup,
je vois les petits logos là.
Oui,
on peut retrouver sur les
différents
réseaux.
Le site web n'est pas forcément toujours bien à jour. Voilà. On est plus sur les réseaux sociaux quand même, Facebook, Instagram, Twitter. Et en cherchant à chaque fois Zero Waste Rennes ou Zero Waste Pays de Rennes, on nous trouve sur ces différents réseaux. Et du coup, vous pouvez comme ça accéder après à plein d'infos, parce que c'est vrai qu'on fait, on a une grosse action quand même de com aussi. Et on fait suivre les campagnes de Zero Waste France, donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'activités à ce niveau-là. Il y aura plein d'infos qui passent par là, quoi.
Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne conférence. Au revoir.
Ben, merci beaucoup pour cette invitation. Au revoir.
Merci. Voilà, donc c'était l'émission Radiosphère spéciale au Salon du Village du Réemploi à Vitré, au Parc des Expositions. C'est organisé par le SMICTOM Sud-Est 35. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site web de Radiosphère. Je vous dis à bientôt. Au revoir.